Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Nadine Jasmin, spécialiste des questions d'égalité femmes-hommes. Bonjour Nadine.
Bonjour.
Nadine, aujourd'hui on va traiter des stéréotypes professionnels. Métier d'homme, métier de femme, ça veut dire quoi au juste ?
Parler de métier d'homme ou de métier de femme, ça renvoie d'abord à une réalité historique qui est ce qu'on appelle la division sexuée du travail. Les hommes pratiquaient certains métiers, soldats, marins, agriculteurs, ouvriers, et les femmes géraient la sphère domestique, travaillaient de manière productive mais souvent gratuite. Par exemple, elles pouvaient travailler dans l'exploitation familiale ou auprès de leur mari, ou exerçaient des métiers traditionnellement associés à la sphère féminine. Alors évidemment, il y avait des métiers mixtes, mais pas forcément le lieu de travail. L'usine, par exemple, il y avait des usines pour ouvriers ou pour ouvrières. De nos jours, par contre, tous les métiers sont légalement ouverts aux femmes comme aux hommes, et dans le cas contraire, ce serait une discrimination.
Est-ce que cela veut dire que tous les métiers sont librement exercés par l'un ou l'autre sexe ?
Oh non, loin de là. Le monde du travail reste largement sexué et la fonction publique l'est également. Par exemple, la territoriale est féminisée à 61%, mais en fait, cette prédominance féminine ne se retrouve pas au niveau des filières ni des métiers, qui restent vraiment très sexués. On trouve plus de 90% de femmes dans le secteur social et médico-social, mais par contre, il y en a moins de 5% dans la filière secours incendie, et on trouve 21% de femmes dans la filière sécurité police. A contrario, on ne trouve que 1% d'hommes sages-femmes et 4% d'hommes seulement éducateurs de jeunes enfants. Donc il y a vraiment une sexuation des filières, une sexuation des métiers, et on la retrouve aussi dans la pyramide hiérarchique. Les hommes représentent, je parle toujours dans la territoriale, 39% des effectifs, mais c'est un chiffre qui monte à 85% des directeurs généraux des services techniques et 95% des directeurs généraux des grandes collectivités.
Comment expliquer cette absence de mixité ? Est-ce une question de compétences, de vivier, de diplôme ?
Non. Déjà, ce n'est pas une question de diplôme. Les femmes sont largement plus diplômées que les hommes. Une femme sur deux est diplômée du supérieur en France contre un homme sur trois. Et c'est d'ailleurs un chiffre qui se retrouve dans tous les pays industrialisés. Donc ce n'est pas une question de diplôme. Ce n'est pas une question de vivier non plus. En ce qui concerne, par exemple, l'accès aux postes à responsabilité dans la fonction publique, mais on trouve un large vivier de femmes qui sont cadres en catégorie A, et pourtant, elles accèdent beaucoup moins que les hommes aux postes A+. L'une des grandes causes de cette faible mixité des métiers et des inégalités qui en découlent est en fait à rechercher en amont du côté des stéréotypes sexués qui influencent le parcours scolaire, professionnel des personnes et donc la structure du monde du travail.
C'est-à-dire, nous serions victimes de stéréotypes dans nos choix professionnels ?
Mais pas seulement dans nos choix professionnels. Les stéréotypes imprègnent toute la société avec leurs attendus, leurs normes, leurs contraintes, et de nombreuses enquêtes montrent la persistance des stéréotypes sexués dans le travail et dans la sphère domestique. Par exemple, un homme sur quatre pense, je cite là une enquête récente, dans l'idéal, les femmes devraient rester à la maison pour élever leurs enfants. Ça, ce sont 25% des hommes. 40% des personnes estiment que pour les femmes, la famille est plus importante que la vie professionnelle. Mais par contre, seuls 16% des personnes pensent que la famille est prioritaire pour les hommes. Voilà, ça, ce sont des stéréotypes. Autre chiffre, 50% des personnes pensent qu'il existe des métiers faits pour les femmes et d'autres pour les hommes. 43% des hommes interrogés dans cette enquête considéraient que les femmes font de meilleures infirmières que les hommes, donc un homme sur deux quasiment. Et 23% des personnes estiment qu'un homme a naturellement plus d'autorité qu'une femme. Voilà, ce sont des chiffres qui pourraient, je ne sais pas, surprendre ou faire sourire, mais parce que nous sommes une société où les femmes ont massivement investi le monde du travail.
Donc, effectivement, oui.
On pourrait s'étonner. Mais ce que révèlent ces chiffres, c'est la persistance, l'imprégnation dans la société de stéréotypes sexués. Or, ces stéréotypes, ils conditionnent l'orientation scolaire et ensuite professionnelle. C'est-à-dire que filles et garçons, dès l'enfance, dès l'école, sont assignés à des rôles, à des normes sexuées qui les empêchent de se projeter dans des modèles alternatifs, qui seraient moins conformes, disons, aux attendus de leur sexe. Les parents, l'entourage, les pères, l'institution scolaire encouragent, mais involontairement bien sûr, les orientations qui sont conformes aux stéréotypes. C'est-à-dire qu'un garçon, par exemple, aura du mal à se projeter dans les métiers de la petite enfance ou de l'esthétique, parce que ça va à rebours du stéréotype dominant pour les garçons. De la même manière, une fille aura du mal à se projeter dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, l'ingénierie, la sécurité, parce que les stéréotypes dominants envers les filles vont dans le sens d'activités, de tâches qui sont beaucoup plus sociales, par exemple. Et donc, les stéréotypes influencent notre parcours scolaire, professionnel, et ça, ça va se répercuter ensuite dans le monde du travail, en termes de sexuation des filières, de faible mixité des métiers, et d'inégalité dans l'emploi.
Alors ça, c'est aussi, les stéréotypes sont aussi les parents. Les filles prennent pour modèle bien souvent la mère, et les garçons prennent pour modèle bien souvent le père.
Bien sûr que les deux parents ont une responsabilité là-dedans, c'est-à-dire que les parents eux-mêmes peuvent être imprégnés de stéréotypes et malgré eux, même pas de manière consciente, vont ensuite les répercuter. Et ça va générer donc ces situations à terme d'inégalité.
Mais ça n'empêche pas les femmes de devenir cadres quand même.
Mais oui et non. Statistiquement, elles deviennent cadres, dans la fonction publique par exemple. Mais elles ne mènent pas la même carrière, elles n'accèdent pas aux mêmes responsabilités et du coup pas au même salaire non plus. Et d'après différentes enquêtes, même les compétences professionnelles sont sexualisées, c'est-à-dire quelque part on attribue à un sexe précis un certain type de compétences. Et dans les mentalités, les hommes auraient des compétences plus pratiques, action, négociation, stratégie, et les femmes des compétences plus relationnelles, d'écoute et d'empathie notamment. Et donc on attribue aux hommes le sens de l'action, la combativité, l'autorité, le charisme, la capacité de bien gérer le stress, la confiance en soi. Et du côté des femmes, on leur attribue des qualités de professionnalisme, d'organisation, de rigueur, de sens du détail, de polyvalence, la fameuse femme multitâche, selon le stéréotype, de diplomatie, de sensibilité. Et à travers ces deux pôles de compétences dites masculines ou féminines, on reconnaît bien ce que sont les modèles dominants à l'œuvre. Pour les hommes, finalement, ça renvoie à des modèles de leader, de sportif, de stratège. Alors que pour les femmes, ça renvoie plutôt à des modèles d'organisatrices multitâches, plutôt intuitives et plutôt sensibles. Et derrière ces modèles dominants, ce qui apparaît, c'est un duo qu'on connaît bien, l'homme leader et la femme assistante. Et ça, c'est une répartition des rôles qui est partagée, qui est reconnue des deux côtés et qui recouvre une réalité. C'est pas seulement une image, un stéréotype, une représentation. On sait que les hommes occupent très majoritairement les postes les plus élevés, ceux qui ont les plus hautes responsabilités, malgré les quotas, y compris les quotas dans la vie politique, dans la fonction publique et dans l'administration.
Alors vous avez parlé quotas, mais est-ce qu'il n'y a pas une part de renoncement ?
C'est-à-dire que les quotas sont un dispositif qui est conçu comme temporaire pour résorber une inégalité visible, massive et bien identifiée. Donc je crois qu'il faut les prendre vraiment comme un instrument, comme un outil qui va permettre de corriger une inégalité existante et flagrante. Et évidemment, dans un monde idéal où hommes et femmes seraient complètement égaux au niveau des carrières, de l'orientation, des rémunérations, etc., on n'en aurait plus besoin de quotas. Mais malheureusement, on n'en est pas là.
Revenons à nos stéréotypes, ce qui veut dire que les stéréotypes génèrent des inégalités durables ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, les stéréotypes à la fois précèdent, façonnent la réalité, et la réalité les conforte en retour. C'est un cercle vicieux. On a des stéréotypes, du coup, on agit d'une certaine manière, ça renforce les stéréotypes et leurs effets négatifs dans le monde du travail. Et l'absence de mixité dans les filières, dans les métiers, dans les emplois, génère des inégalités, des discriminations, des difficultés professionnelles. Par exemple, ça va de la difficulté à recruter dans certaines filières en tension à la sous-exploitation des compétences, ça génère également des déséquilibres au sein des services et parfois de la désorganisation du travail. Voilà ce que produit une faible mixité. Et puis, cette sexuation du travail, qui est plutôt inégalitaire, a des conséquences aussi en termes de salaire, de retraite, de recrutement, d'avancement pour les femmes. Les chiffres là-dessus sont vraiment très clairs sur les inégalités engendrées par cette faible mixité, cette sexuation des métiers des filières. Et puis, bien sûr, la fonction publique porte des valeurs égalitaires et non discriminantes. Ce sont celles du service public. Et donc, il faut sortir de la binarité métier masculin, métier féminin, à la fois pour des raisons d'efficacité, de l'égalité, la dimension légale, et d'exemplarité. Et à contrario, on voit les effets négatifs quand il n'y a pas de mixité. À contrario, quand il y a de la mixité, ça permet de développer une gestion équilibrée des filières, d'attirer les compétences, d'équilibrer les services, et évidemment, ça profite aux deux sexes. C'est-à-dire que ça donne aux uns comme aux autres plus de liberté professionnelle et aussi la possibilité, la capacité de mieux articuler sa vie professionnelle et sa vie personnelle, qu'on soit homme ou femme.
Je vais me faire l'avocat du diable, mais quand même, les femmes ne peuvent pas tout faire. Il y a des métiers physiquement trop pénibles.
Mais c'est-à-dire que la pénibilité n'est pas forcément là où on a l'habitude de l'imaginer. D'abord, il y a deux types de pénibilité. Il y a la pénibilité physique, mais il y a aussi la pénibilité psychologique dans la relation au public. Et là, les femmes peuvent être très souvent concernées, ne serait-ce que dans la fonction publique majoritairement féminine. Et c'est vrai que quand on parle pénibilité, l'image qui vient tout de suite, c'est, enfin moi en tout cas, l'image qui me vient, ce serait celle de l'ouvrier du bâtiment qui porterait sur son dos, par exemple, des sacs de 50 kilos. Ce qui est vrai, bien sûr.
De l'autre côté, il y a l'ouvrière des pays de l'Est qui faisait la même chose dans les années 60.
Exactement. Donc la pénibilité, là, quel que soit le sexe, c'est une réalité. Mais c'est vrai qu'on pense, a priori, on ne pense pas à l'infirmière, à la puéricultrice, à la lingère, qui soulève des centaines de kilos par jour. On n'a pas non plus en tête les caissières, les serveuses, qui présentent des troubles musculo-squelettiques importants. On ne pense pas aux auxiliaires à domicile qui travaillent de nuit, avec des horaires complètement atypiques, aux femmes de ménage, qui se lèvent extrêmement tôt ou qui rentrent extrêmement tard. Et tout ça, ce sont des facteurs de dégradation de la santé. Et beaucoup de ces métiers, qui sont peu qualifiés, sont pénibles, physiquement, mentalement, et justement, ce sont les femmes qui occupent une bonne part de ces métiers. Donc c'est vrai que quand on pense pénibilité, il faut avoir en tête un peu tout l'éventail, tout le spectre de ces métiers peu qualifiés où les femmes sont majoritaires. Cela étant, la mécanisation a quand même permis de diminuer assez significativement la pénibilité dans pas mal de filières, et l'entrée des femmes justement dans des métiers qui étaient traditionnellement masculins a imposé des adaptations qui ont permis de diminuer la pénibilité, et ça, ça profite aux deux sexes. Et donc je reviens à cette question des avantages de la mixité des métiers des filières. Ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail des personnes, de préserver leur santé physique et mentale, et du coup d'augmenter l'efficacité, bien sûr, du service rendu aux populations.
Alors, que peut-on faire pour favoriser cette mixité professionnelle?
Ça, c'est un vaste chantier à mettre en œuvre qui dépasse évidemment le seul cadre du collectif de travail, mais on peut quand même indiquer quelques pistes d'action. Je rappellerai d'abord que la question de la mixité professionnelle s'inscrit dans le cadre élargi d'une culture de l'égalité au sein de la collectivité. On ne peut pas penser la mixité toute seule sans penser en même temps l'égalité professionnelle qui elle-même s'inscrit dans une démarche d'égalité entre les femmes et les hommes, à la fois dans la collectivité, mais aussi sur le territoire élargi. Donc pour ça, il y a des cadres, il y a des outils légaux, il y a des chartes, il y a des labels, etc. Donc il faut vraiment penser la mixité en lien avec l'égalité au sens beaucoup, beaucoup plus large. Et donc le point de départ de cette démarche, c'est déjà de faire un état des lieux de sa collectivité, à partir du rapport annuel de situation comparée entre les femmes et les hommes, et ces données que livre justement le rapport de situation comparée, il faut arriver à les exploiter et à en tirer une démarche en termes d'égalité professionnelle et de mixité. La loi de transformation actuellement de la fonction publique qui est à l'étude à l'Assemblée nationale et au Sénat prévoit justement d'améliorer l'égalité professionnelle et en particulier l'obligation pour les collectivités territoriales d'un plan d'action triannuel qui aille dans ce sens. Voilà, donc on est en plein justement là dans les évolutions de la loi pour favoriser l'égalité professionnelle et donc la mixité.
Ça veut dire qu'après on va évaluer ce plan tous les 3 ans ou tous les ans?
Alors, la loi est en cours de discussion, mais c'est l'idée, bien sûr. C'est-à-dire de dépasser l'état des lieux, dépasser le constat pour vraiment se doter, au-delà de simples préconisations, vraiment d'une démarche proactive avec, donc, des objectifs. Et puis, il s'agit de voir si ces objectifs sont atteints ou pas. Mais bon, c'est vraiment en discussion ces jours-ci. Mais c'est pour dire qu'on va dans ce sens, hein, de toute façon. Que les collectivités ont tout intérêt à devancer et en tout cas, aller dans le sens de la loi. Alors, un petit peu plus en détail, il y a plusieurs axes sur lesquels on peut travailler en termes de mixité. D'abord, travailler bien sûr sur les stéréotypes. C'est important pour la communiquer, pour la collectivité, de communiquer de manière égalitaire, non sexiste, pour ne pas propager elle-même, hein, sans le vouloir bien sûr, des stéréotypes professionnels. En amont, la collectivité peut aussi intervenir sur les questions d'orientation scolaire et professionnelle, elle peut faire connaître ses filières, les métiers peu mixtes, elle peut valoriser l'image, l'attractivité de ces métiers en travaillant, par exemple, avec l'éducation nationale. En interne, la mixité passera par le développement d'une culture de l'égalité professionnelle, alors à tous les niveaux, hein, bien sûr, ressources humaines, manager proximité, direction générale, il faut sensibiliser les personnels, il faut former les professionnels du recrutement, du déroulement de carrière, pour qu'il y ait vraiment une démarche qui soit portée à tous les niveaux, de la direction générale des services au management de proximité. Et puis, je pense que dans le détail, il faut vraiment faire un travail pour clarifier, pour objectiver tout ce qui est de l'ordre des processus de recrutement, de promotion, de mutation, voilà, de manière là non plus à ne pas aller dans le sens des stéréotypes, à vraiment ouvrir les postes aux deux sexes et à éviter tout ce qui est un petit peu flou, tout ce qui est un petit peu genré, qui empêcherait, par exemple, les femmes de se projeter sur un poste entre guillemets masculin. Par exemple, quand vous rédigez une offre d'emploi en disant « grande disponibilité demandée », d'abord, c'est complètement flou, c'est pas très bien ce que ça veut dire. Et puis surtout, ça empêche souvent les femmes de se projeter dans ce type de poste, alors qu'en fait, elles en ont la compétence. Donc il y a vraiment un travail de clarification, d'objectivation à faire pour vraiment ouvrir les postes à tous.
La marge de progression est importante.
Oui, comme vous dites. Mais c'est engagé, la démarche est engagée, c'est ça qui me paraît importante. Il y a beaucoup encore de progrès à faire, oui, mais là, les collectivités territoriales commencent vraiment, et pour certaines plus que commencer, à s'emparer de la question, s'en saisissent. Et puis, c'est bien que la loi fixe un cadre qui va permettre aux collectivités territoriales, justement, vraiment, d'être actives avec un certain nombre de d'attentes, d'objectifs, d'outils, etc. Et puis, je pense que le travail d'une collectivité pour favoriser la mixité, ça va être de pouvoir accompagner les personnels, c'est-à-dire encourager les candidatures quand un sexe est sous-représenté, que ce soit les femmes dans des métiers masculins ou les hommes dans des métiers féminins, communiquer en interne, détecter les potentiels, réfléchir aux progressions de carrière, valoriser les candidatures minoritaires, organiser des réseaux féminins, accompagner aux prises de poste, etc. Voilà, tout ce qui va permettre aux femmes d'aller vers des métiers d'hommes et aux hommes d'aller vers des métiers de femmes, bah, doit être aussi porté et encouragé à l'interne. Et puis, je pense qu'un dernier levier sur lequel on peut agir, c'est l'organisation du travail. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de la pénibilité. Bah, travailler sur la pénibilité, ça va au-delà de la question de la mixité des filières. Ça permet d'améliorer les conditions de travail pour les deux sexes. Ça permet, je le disais tout à l'heure, d'articuler vie professionnelle et vie personnelle, et donc ça va être là aussi bénéfique pour l'ensemble du personnel et donc pour la collectivité tout entière. En fait, je dirais pour en bilan que il s'agit de lever les obstacles. Je recommence. Je dirais que dans tous les cas, le travail, c'est de lever les obstacles, à la fois objectifs et subjectifs, qui empêchent les femmes d'exercer des métiers d'hommes, ou inversement, ou d'atteindre le même niveau de responsabilité que les hommes, ce qu'on appelle le plafond de verre. Et, à contrario, qui empêche aussi les obstacles qui empêchent les hommes d'investir des filières féminines qui sont elles-mêmes souvent très sexuées. Ça veut dire un travail vraiment de vigilance à tous les niveaux, à la fois pour soi, dans son environnement de travail, dans le collectif de travail, et on voit bien le chemin qui reste quand même à parcourir pour que les collectivités territoriales deviennent vraiment modèle de mixité professionnelle et qu'elles puissent la promouvoir également sur leur territoire.
Écoutez, Nadine Jasmin, je vous remercie infiniment pour cet éclairage.
Merci à vous.
Quant à vous, chers auditeurs et auditrices, vous voici maintenant outillés dans cet aspect du sujet de l'égalité professionnelle femme-homme. À très bientôt pour une 6e émission. Au revoir.
Au revoir.
Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.